Hey gang, re-bienvenue au podcast du pain et des jeux, mais surtout des jeux, même si c'est bien bon du bon pain. Ma foi, on est aujourd'hui le 6 janvier, ou comment on l'appelle, jour 2 après Tulum au Mexique, parce que c'est rendu ça à cette heure, la nouvelle affaire. Ce voyage d'influenceurs s'est rendu une nouvelle an, ce qui me concerne, et à partir de maintenant, ça part maintenant. Ceux qui voient en vidéo savent que moi aussi, j'ai voyagé. Je suis dans Outworld ou au Netherrealm. C'est comme pas clair à cause de l'éducation. Je suis un peu perdu. Mais en fait, je suis en Outworld. Je vais juste préciser, je suis dans Outworld. Et évidemment, j'ai voyagé dans les règles correctes. Le portail que j'ai pris, j'étais seul dedans pour y aller. Fait que toutes les mesures ont été respectées.
Et je n'ai consommé rien. Tu es seul dans ton avion, tranquille. Ça a bien été.
Exactement. Et mon invité qu'on vient d'entendre aujourd'hui s'appelle Luc. Ludic, en fait. Tu vas t'appeler Ludic. Ludic, comment ça va?
Ça va très bien, toi, Pierre-Luc.
Super, super. Écoute, premièrement, une affaire qui est le fun, malgré tout, de cette pandémie-là, c'est de pouvoir éviter de te faire venir de Trois-Rivières pour enregistrer un podcast. Fait que c'est pour ça que j'ai pensé à toi pour te recevoir comme premier invité par Zoom. Je vais essayer d'avoir des invités. Gentil. Qui n'ont pas une heure et demie de route pour venir me jaser 20 minutes, mettons.
Hey, mais tu veux rire, mais pour des fois, quand j'ai des invitations, j'essaie de me booker la même journée pour aller à Montréal une seule journée, puis je fais des petits enregistrements ici et là. Fait comme ça, en effet, je n'ai pas besoin de me faire genre 3 heures de route aller-retour. Mais oui. Honnêtement, là. Ça me fait toujours plaisir. Puis oui, comme tu dis, là, être en Zoom. Là, en ce moment, j'ai une entrevue. Je suis dans mon bas de pyjama. Ça va super bien. Maudit que c'est pratique, ce petit côté-là de la pandémie.
quand même. Écoute, Luduc, je pense que les gens te connaissent peut-être dans le milieu geek déjà, parce qu'on te voit déjà en train de faire, depuis plusieurs années, peut-être même 10-11 ans, je pense, mais même plus que ça, des vidéos, des Vox Pop au Comic-Con, des choses comme ça. Parle-moi de la naissance. Dans le temps, le personnage, maintenant, c'est plus toi maintenant, t'as plus de perruque, t'as plus ton veston. Ouais. Fait que parle-moi de tout ça.
Ben, dans le fond, Luduc a commencé en 2011 alors que j'étais à la recherche de projets. Je faisais beaucoup de vidéos amateurs dans le temps. Puis à un moment donné, il y avait un de mes amis qui m'avait dit « Hey, on devrait aller dans une convention, un Comic-Con. » Et on arrive là-bas déguisé, puis on a du fun, tout simplement. Puis moi, je me disais, hey, j'ai envie de filmer ça, j'ai envie de voir, de vivre ça, avoir une archive de ça. Et on l'a fait. Puis le monde était super collaboratif. Puis, OK, là, je vais dire, c'est grâce à Richard Martineau que je fais ça.
Oh my God, écoute.
Okay, let's go! Écoute,
au moins, Richard Martineau a fait une bonne affaire dans la vie, puis c'est de créer, de mettre naissance.
Hey, non, mais sérieusement, c'est capable parce qu'à un moment donné, je me rappelle, j'avais vu un de ses reportages, puis il avait été dans une convention, puis la phrase qu'il disait principalement, c'était « OK, fait que vous autres, vous habitez encore chez vos parents », puis moi, je le trouvais rough. J'étais comme « Mais voyons donc, crime, il leur laisse même pas le temps de s'exprimer, de montrer leur côté de la médaille. » Fait que quand j'ai fait la vidéo, je me suis dit « Hey, je vais montrer leur côté de la médaille, comme quoi que, crime, eux autres, ils doivent bien avoir du fun à un moment donné à quelque part, tu sais. » Et c'est ça. C'est justement ce petit trigger-là qui a amené le fait que j'ai fait des reportages. Puis 10 ans plus tard, ben maintenant, je continue à faire de la vidéo. Là. C'est sûr que là, maintenant, j'en fais moins en moins des reportages, là, surtout dans les conditions aujourd'hui. mais non, c'est ça. C'est ça
mais non, mais c'est fou. Puis, tu fais des capsules, tu fais du Twitch aussi. Puis juste au passage, j'en ai parlé sur RDS Jeux vidéo l'année passée. J'ai fait un article qui parle que les médias traditionnel devrait parler plus souvent des jeux vidéo. J'ai vu aussi le traitement, c'était probablement les francs-tireurs dont tu me parles, et il y a comme 2018-2019, ils sont allés, je pense, voir un rassemblement de joueurs de Pokémon Go, je pense à l'île Sainte-Hélène, puis c'était du Trizac qui faisait ça, puis il était avec du mépris total. Puis, tu sais, je peux comprendre, mettons, quelqu'un qui y va avec une incompréhension de « je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, ce phénomène m'échappe des doigts et je ne comprends pas le truc », mais y aller avec du mépris, je trouve que personne gagne, personne paraissait bien, à part Pierre-Luc Ouellette, un intervenant que j'aime beaucoup, il a très bien paru, mais genre, je trouve que personne, mettons, l'émission ne paraît pas bien,
non.
Les gens autour qui aiment Pokémon Go ou les geeks de Comic-Con ne paraissent pas bien. Puis c'est juste que tout le monde perd dans ces situations-là. Puis je suis bien content que toi, tu permettes de voir que des cosplayers ont mis des efforts incroyables. Hey, Dans la vie, c'est tough, s'habiller normalement. Imagine maintenant faire des costumes qui te font bien, là.
C'est ça, exactement. Mais en même temps, OK, là, j'y vais dans la théorie de conspiration, là, mais moi, j'ai toujours pensé que ces personnes-là là, qui font des reportages, ils font vraiment pour la game parce qu'ils savent que la télévision vient populariser un peu ce genre d'opinion-là. Donc, dès qu'on arrive comme dans une opinion hors champ, bien, automatiquement, ah, peut-être que là, ça va moins plaire au code d'écoute ou quelque chose du genre. Fait que j'ai plus cette vibe-là. On va aller chercher on va aller plus rejoindre un type d'opinion simplement parce que ça vient vendre du papier ou des views, tout simplement, pour la vieille clientèle qui est la télévision, tout simplement.
Fait que je suis moins d'accord avec ta théorie.
Okay,
parce
mais c'est correct, il
n'y
a pas de problème.
Oh, non, c'est ça, regarde, si vous êtes étranglé, il faudrait que je prenne mon char pour y aller et tout.
Il y a un an et demi aller-retour.
Je vais me déchoquer rendu là. Non, mais ma théorie là-dessus, c'est plus que c'est le même aussi sur le web. Tu sais, je veux dire, les gens font des vidéos YouTube à sensation choquante aussi. Je pense que c'est pas juste à la télévision qu'il peut avoir des opinions antagonistes pour le plaisir.
Je pense, par contre, je suis d'accord avec toi par rapport à ça. Ouais, ça
par contre, je pense que ça vient de Trisac qui n'aime rien dans la vie à part la couleur, être dans le noir et dormir dans un cercueil la nuit. Je pense qu'il n'y a pas dans d'affaires qu'il aime dans la vie, fait que ça vient de lui. Tu sais. Richard Martineau, dans le temps qu'il écrivait pour Le Voir, il avait écrit un moment donné un article comme quoi qu'il n'avait pas aimé Kill Bill parce qu'il avait écouté la trame sonore de Kill Bill, puis le film n'était pas comme il s'imaginait. Il y a du monde dans la vie qui n'aime juste pas certaines choses. Puis, je pense aussi que pour les gens de l'âge de ces hommes-là, les jeux vidéo, pour une partie de ce monde-là, c'est encore des affaires d'enfants et des bébelles. De pourquoi est-ce que ces jeunes-là jouent à Pong en écoutant The Police, la musique du rock du démon. Là. Fait que, moi, je pense que ça vient peut-être plus de ça que de vouloir choquer les gens. Parce que c'est juste des gens, ces missions-là, c'est animé par du monde qui sont de mauvaise humeur en général, après les gènes, mettons.
Ouais, je comprends très bien ton point.
Mais tu vois, je trouve qu'avoir un angle positif comme le tien, c'est moi, c'est une affaire aussi, je me suis dit, dans RDS, jeux vidéo, quand que j'ai commencé à écrire pour eux, c'est j'haïs ça, consommer un média qui me parle de quelque chose, puis qui me dit qu'il n'aime pas ça. Ça a l'air niaiseux, mais à un moment donné, j'écoutais une émission de radio qui parle de technologie, puis à chaque fois, ça finit que GAFA vole tout, puis que lâche tout, puis on va tous mourir, tout ça. Puis je suis comme, ouais, mais moi, j'ai juste avoir une app, le fun, là, qui va changer ma vie, puis changer mon éclairage chez nous à distance. Là.
Mais ça se peut-tu aussi en même temps que la clientèle veut aussi chialer, cherche des moyens pour chialer aussi en même temps?
Et les deux sont importants. C'est important d'en parler un peu aussi de ces enjeux-là. Ouais. Quand quelque chose de pas le fun qui sort, faut en parler. Fait que oui. Surtout les gamers, c'est le fun de chialer. Là. Je ne vois pas de cachette. Ouais.
Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que crime, surtout dans les temps qu'on vit en ce moment, c'est important de pouvoir se concentrer sur les trucs positifs. Parce que si, admettons, on s'en va trop se réfugier dans la négativité, ben à un moment donné, on vient qu'à se perdre un peu. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est bien beau avoir des réseaux sociaux, mais c'est parce qu'en même temps, tu deviens de moins en moins social, puis tu deviens de plus en plus, je veux dire, téméraire dans tes propos, puis ça devient weird comme relation. Puis aujourd'hui, on le voit avec les réseaux sociaux, c'est rendu trash un peu, là. Fait que c'est principalement ça, là.
Mais toi, quand tu as commencé tes vidéos, tu t'es dit, là, je vais mettre en scène des gens qui ont juste du fun, montrer le côté cool du geekness et tout. Dis-moi, comment est-ce que ça a évolué pour toi, ce projet-là?
Écoute, c'est là où que j'ai rencontré comme un paquet de personnes, des créateurs de contenu qui ont commencé à faire du YouTube en même temps que moi. Et il y a une genre de clic qui s'est déployé au fur et à mesure. Puis c'est là où qu'on a commencé à faire des vidéos ensemble. Dans le lot, il y en a eu plusieurs qui sont encore présents sur les internets. Puis c'est ça qui a amené un peu. Je pense que lorsqu'on trouve un peu sa clique, c'est là où on vient un petit peu s'épanouir pour pouvoir créer, puis trouver la vibe, puis trouver les personnes avec qui créer. Parce que des fois, tu vois, t'es comme là en ce moment, c'est principalement du vidéo, mais tu t'en vas avec des amis avec qui tu étais auparavant. C'est pas nécessairement du monde avec qui tu veux créer des vidéos, tu veux faire nécessairement. C'est pas du monde qui vont faire comme « Ah, je suis pas tant à l'aise devant la caméra. » Fait que tu sais, c'est bon de se rattacher vers les personnes qui aiment ça créer. Fait que moi, je pense que j'ai eu cette belle opportunité-là. Puis, ça l'a créé comme ce genre d'univers-là qui a été les reportages de Luduc, qui a été mis aux réalités par la suite, qui est un projet que je trippe encore aujourd'hui. Puis, il y a comme un genre d'imaginaire qui est arrivé en même temps. Il y a un genre de lore qui est arrivé avec Luduc, qui est comme... ça a bien beau être des chroniques, mais il y a comme une histoire à l'arrière, ce qui est comme un peu weird. Il me semble que c'est rare qu'on voit ça. Fait que, non, c'est ça. Puis ça l'a amené, puis ça me permet de pouvoir parler de toutes mes passions de jeux vidéo, de films, de séries télé. Moi, je suis un gros maniaque de tout ce qui est jeux vidéo, rétro principalement. Puis, grâce à mes vidéos, ben, tu sais, j'ai quand même des bons moments pour en parler.
Moi, une affaire qui me fascine de tout ça, c'est que, mettons, là, ce samedi, je vais annoncer que je vais être ambassadeur pour le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe. Fait que, tu sais, tantôt, je veux que je fasse une petite vidéo, que je vais faire le montage dessus pour l'amener à une minute. Tu sais, j'ai comme 5 points à amener par rapport à ça. Puis, tu sais, genre, puis juste un montage-là, je sais que ça va être long. Puis, c'est comme, il n'y a pas d'effet spéciaux vraiment dedans. Il va y avoir juste de la colo, peut-être juste comme à m'emmener un effet sonore puis visuel. Mais je le sais que ça va me gosser. Personnellement, moi, c'est le montage que je déteste ça.
Ah, je pense que le montage, il n'y a pas grand personne qui tripe là-dessus. Je pense qu'on tripe plus à filmer qu'à monter après. On aimerait ça que skipper la partie montage, puis pouf, t'as déjà ta vidéo.
Ouais. Tu sais, maintenant, des vidéos comme les tiennes. Comme les tiens ou les tiennes, les tiens. Ce mot-là a changé de genre à travers mon âge, puis des fois, j'ai la misère à pas le mégenrer. Des vidéos comme les tiennes, c'est quand même lourd de montage. Ça m'impressionne. Oui. À chaque fois que je vois des vidéos de même, je suis comme tabarouette. Tu sais, à cause que j'en fais très sobrement, je peux faire comme « Oh, crime, juste cet effet-là a dû prendre... » En tout cas, moi, ça me prendrait genre en avant-midi. Là. Puis je suis comme... J'ai pas patience pour ça. Pas quand on n'est pas payé, pas quand on est tout. C'est tellement tough des fois comme créateur de contenu sur le web de faire sa place. En plus, tu fais tout ça, puis après, tu espères que les saints dieux de l'algorithme vont donner ça aux gens. Là.
Et surtout que c'est un gros coup de dé, c'est un tir de dé quand tu sors une vidéo, parce que tu ne sais pas si ta vidéo va se faire peut-être se faire piétiner par quelque chose qui va arriver en même temps, qui va être plus important.
Imagine, OK, tu prends 3 mois de ta vie pour faire une vidéo que tu fais le montage vraiment tête, incroyable, puis tout. Tu la mets en ligne à midi, puis à midi 2, il y a un échange d'un Canadien, puis ouais, ça n'existe plus.
Fait.
Ça, c'est juste, ça n'existe plus. T'es fait. Ou il y a un point de presse du gouvernement, puis celui-là est important, puis pas celui du lendemain. Fait que des fois, il y a ces coups de délai. Comme tantôt, mettons, j'ai fait un reel sur Instagram. Pierre-Luc. C'est un reel de quelqu'un qui, une fille ou un gars qui va magasiner son voyage à Tulum, puis comme genre l'espèce de gentleman qui organise ça, qui est un petit peu louche.
Elle était bonne en passant, t'as vu, elle était vraiment cool.
Merci beaucoup, merci, vraiment content de ça. Mais tu sais, en plus, c'est toutes des bouteilles à la mer, tu sais. Puis dans le format que tu fais, ça m'impressionne de prendre tellement de temps sur une bouteille à la mer. J'ai écrit un livre sur une bouteille à la mer, j'avais tellement beaucoup d'affaires de bouteille à la mer. Puis, tu sais, il y en a qui sont plus calculés. Puis, genre, moi, je trouve que les vidéos, ça m'impressionne vraiment parce que c'est tellement d'ouvrages. Tu sais, juste pour une scène, il faut que tu aies de l'éclairage, du micro, il faut que tu aies de la pré-prod, de la post-prod. C'est incroyable.
Mm-hmm. Très vrai. Puis, pour les capsules que je fais, ça dépend du concept, là, mais je te dirais que c'est quelque chose entre facilement 6 à 8 heures, 10 heures, si jamais je suis bien motivé. Mais tu sais, en même temps, il faut penser aussi. Avant, je pensais pas trop au nombre de. Tu sais, à la visibilité, puis tout. Puis je me disais, je vais le faire pareil, ça va être le fun, puis tout. Puis on dirait que plus j'avance en âge, puis plus je me dis, regarde, ce concept-là, il en vaut-tu la peine de le faire? Toute l'énergie qui est demandée autour de ça, ça en vaut-tu la peine? Tu sais, je mets pas de côté la qualité, bien entendu, mais c'est quand même comme. Maintenant, c'est un raisonnement que je me pose un peu.
Mais c'est une bonne question à se poser. C'est une bonne question à se poser parce que, mettons, moi, en tant qu'humoriste de scène, des fois, j'ai envie de parler d'un sujet, mais je suis comme, OK, si j'écris un numéro sur le métro de Montréal, ben je suis condamné à le faire à Montréal seulement. Ce numéro-là ne marchera pas. Dès que je sors du pont puis je me ramasse à Candiac, ce numéro-là ne marche pas.
Pas le référent.
C'est ça, ou genre, c'est ça, de telle station. Fait que, tu sais, des fois, t'es comme, ah oui, tu sais, j'aimerais écrire une affaire ou j'ai envie de parler de la télé-réalité de Circle qui m'avait vraiment choqué dans la bonne manière il y a 2 ans, mais je sais que personne ne l'a vu au Québec. Personne n'a vu la saison 1 de Misfits UK au Québec, tu sais. Fait que genre, même si ça me tente d'écrire là-dessus, fait que des fois, tu as des choix en tant qu'artiste à faire parce qu'à un moment donné, tu as un diagramme de veine entre ce que tu as envie de dire et ce que les gens peuvent recevoir aussi.
Ouais.
Écoute, Ludic, c'est vraiment cool. J'invite vraiment les gens à venir voir ton contenu. Il est vraiment bien fait, il est bien peaufiné. Mais là, on va passer à ton sujet principal. Aujourd'hui, on va parler avec toi de Banjo-Kazooie. Des fois, j'ai envie de dire Banzo. Je ne sais pas pourquoi, à cause du
casse-dix. Ah, tu as le droit de dire Banzo.
Non, mais je vais respecter quand les créateurs ont créé. Écoute, Banjo-Kazooie, c'est une série de jeux vidéo développés par Rare plutôt. Parce que j'ai appris le mot Rare quand je suis au secondaire, fait qu'on disait Rare dans le temps. Bref, les jeux mettent en vedette un ours qui s'appelle Banjo. Et son ami, un oiseau rouge qui s'appelle Kazooie. Et les deux sont contrôlés par le joueur. Le premier jeu a vu le jour au N64, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement.
Et il y a eu ensuite 3 suites et un spin-off de jeu de course.
Non, il y a eu 3 jeux. En tout cas, on en parlera tantôt. Là.
OK, parfait.
Semi-vrai, là, mais bon.
Mes recherches sommaires sont c'est des recherches sommaires que j'ai faites. Parce que je savais à quel point tu es un fan. Fait que je me suis dit, je vais te laisser m'en parler. Fait que premièrement, j'ai envie de te parler parce que le 64, c'est une console formatrice dans ma vie. J'ai joué à pas mal de jeux là-dessus. Puis moi, je me souviens, à l'époque, je n'avais pas été tant touché par Banjo-Kazooie. Je vais avouer que...
tu as grandi avec quoi sur la Nintendo 64 pour la fin?
Mario 64, GoldenEye, Super Smash, vite dans même les jeux de lutte. Ça serait plus ça. Puis, je trouvais qu'il y avait un genre de... Je ne sais plus qui est sorti, lequel est sorti avant l'autre, mais DK64, puis celui-là, ça ressemblait un petit peu dans l'espèce de jungle par bout. Puis, lorsque tu utilisais Kazooie pour voler, ça fait un son vraiment fatigant, que je trouve qui est extrêmement fatigant. À chaque fois, dans un genre de... Oui! À chaque fois, tu fais un... Ouais. C'est ça. Fait que là, imagine-tu être un parent qui fait la vaisselle derrière, qui essaie de faire ses mots croisés.
On peut s'entendre qu'il y a pire côté son de jeu vidéo. Là. Il y a Yoshi's Island. Quand tu perds bébé Mario, là,
oui, absolument.
C'est le son que tu ne veux pas entendre quand tu es un nouveau parent, mettons. Là. Tu joues un jeu vidéo, tu ne veux pas ça, mettons.
Sur RDS jeux vidéo, j'ai fait le top des personnages les plus gossants. Puis je n'avais pas mis Kazooie dedans, j'ai pas pensé, mais j'ai mis bébé Mario et évidemment Navi est là-dedans. De Ocarina of Time. Fait que moi, parle-moi de pourquoi est-ce que toi, t'avais quel âge à l'époque, puis comment c'est que ce jeu-là t'a marqué autant?
Écoute, c'est l'histoire est un petit peu plus profonde. Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mes parents, j'avais une grand-mère qui avait acheté la Nintendo 64 et je me rappelle, le premier jeu qu'elle avait, c'était Banjo-Kazooie. Et à un moment donné...
T'as quel âge à ce moment-là?
J'avais environ, à ta minute, là, ça c'est en 96, 97, j'avais peut-être 8-9 ans dans ces coins-là.
98, t'es sorti la console. Pas la console, le jeu.
98?
Ouais.
Attends, 98, ça veut dire 99. Bon, OK, d'abord, j'avais 10-11 ans dans ces coins-là.
OK.
Fait que moi, de mon côté, je découvre le jeu. Moi, je suis estomaqué par la 3D. Les jeux qui m'ont fait découvrir la Nintendo 64, c'est Mario 64 et Banjo-Kazooie. Et à un moment donné, mes parents me sont arrivés avec un cadeau. Mon père avait acheté une Nintendo 64.
Yeah!
Je ne sais pas quel deal qu'il avait eu. Puis moi et ma mère, on s'est mis à capoter sur le jeu Banjo-Kazooie. Tellement que on se donnait comme mission de s'attendre à chaque fois qu'on terminait un monde pour s'en parler au souper ou bien la prochaine fois qu'on allait se voir, se donner des trucs sur comment débloquer tous les morceaux de casse-tête, tous les unlockables, tous les trucs à collectionner. Puis ça a été comme une grosse conversation. C'était comme la bulle que j'avais avec ma mère. Tellement que je me rappelle que ma mère, dans le temps où j'étais en appart, elle venait chez nous, puis elle arrive, elle me dit, tu sais, Luc, ta Nintendo 64, tu t'en sers-tu en ce moment? Là, moi, je la regarde, je fais comme, OK, tu veux jouer à Banjo-Kazooie? Elle fait comme, oh, je l'emprunterais peut-être. À un moment donné, mon père, il a acheté une Nintendo 64, justement, usagée, pour lui faire un cadeau, puis elle s'est retrouvée avec sa propre copie de Banjo-Kazooie. Fait que c'est un peu drôle de savoir que cet amour-là provient directement de ma mère.
C'est cool, ça.
C'est vraiment cool parce que c'est rare des parents, ben, en tout cas, moi, de ma génération, c'était rare des parents gamers.
Absolument. Puis, genre, moi, j'ai comme aucun ami. Genre, moi, je suis 3-4 ans plus vieux que toi seulement, mais j'ai aucun ami que ce parent jouait. Ça n'existait pas. Tandis qu'à cette heure, mettons, je regarde mes amis qui ont des enfants, tout le monde joue. Mon père, il peut jouer même à des petits jeux, ma mère, ses tablettes, puis tout. Fait que ça compte pour du gaming en ce qui me concerne. Mais à l'époque, non. Fait que c'est vraiment cool. Puis genre, je le sais, moi, dans le temps. Moi, je me souviens que ça va être une thérapie, là, mais la seule fois que ma mère a joué avec moi aux jeux vidéo, c'était à Cruising USA au 64, justement. Puis je m'en souviens encore aujourd'hui, tellement ça fait du le fun, tu sais, qu'elle s'intéresse à ce que je fasse. Puis tout. Fait que je peux pas. En fait, je peux juste imaginer à quel point que si ça vient avec un jeu puis une relation derrière ce jeu-là, c'est vraiment le fun parce que tu as pu voir plein de discussions sur la musique, plein de discussions sur les niveaux, comment ils sont faits, les personnages. Parce que tu sais aussi, Banjo-Kazooie, ça prend 8 heures avant de partir, ce jeu-là aussi. Il y a beaucoup de cutscenes en partant. Fait que déjà là, ben, tu as beaucoup au moins d'histoires pour un enfant. C'est le fun d'avoir beaucoup, beaucoup d'histoires. C'est pas juste comme tu as reçu une lettre de la princesse puis let's go, là.
Mais sérieusement, ça, c'était comme le côté créatif que les jeux vidéo nous amenaient avant. Tu te rappelles sûrement des jeux de la Nintendo normale. Et ça vient carrément de trahir mon âge et dit Nintendo normale. le fait que tu sais, on était comme laissés à l'air et il y avait comme une histoire, mais qu'on dirait que notre imaginaire gérait cette partie-là. On faisait comme, OK, on n'a pas besoin d'avoir un gros texte, une grosse cinématique. On a juste besoin de quelques lignes et ça vient comme régler l'histoire, le gameplay. Fait que c'était extraordinaire dans le temps.
Puis tu pouvais inventer, mettons, tu as Double Dragon, tu peux dire que Billy est comme ça, puis Jimmy est comme ça aussi.
Ouais,
c'est alors ça. Que ça n'a juste pas rapport, mais vous, dans votre salon, c'est ça l'histoire que vous vous créez. Puis je suis d'accord que c'est une partie fun, qui était le fun dans le temps, qu'on a peut-être tout se faire dire pour aimer un jeu.
Ouais, c'est en plein ça. Puis moi, de mon côté, ce qui était le fun avec ce qui était de Banjo-Kazooie, c'est que c'est un œuvre aussi qui a très bien. Moi, personnellement, je trouve qu'elle a très bien vieilli. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi. Mais
64, c'est rare en plus des jeux qui ont bien vieilli 64.
Très
là. GoldenEye, c'est.
GoldenEye, c'est rendu dégueulasse.
Ouais.
C'est rendu carrément dégueulasse. Mais je sais que Banjo-Kazooie a été transféré vers la Xbox parce que Rareware a été acheté par Microsoft par la suite. Ça a été le boost que j'ai été le plus triste parce que. Comme on mentionnait tout à l'heure, il y a eu Banjo-Kazooie, il y a eu Banjo-Tooie qui a été la suite, qui est un jeu pas mal plus ambitieux, qui avait plus de moves, des transformations, des mondes pas mal plus grands. Et il avait promis un Banjo-Tooie qui était supposé venir, en tout cas, il s'était spéculé comme qu'il allait venir dans la GameCube. Et lorsque Rareware a été acheté par Microsoft, ce rêve-là est parti, là. On avait juste eu comme quelques petites vidéos dans un E3 pour montrer que, hey, regardez à quoi va ressembler Banjo-Tooie. C'est un démo, mais c'est juste ça qu'on montre. C'est juste visuel ce que vous voyez, mais il n'y a rien eu d'autre. Puis c'est vraiment triste. Fait que, puis on dirait que moi, c'est mon gros fun de plugger Banjo-Kazooie à chaque fois que je fais un gag, à chaque fois que je fais quelque chose qui est random. Ben là, justement, aujourd'hui, là, j'ai un fake account sur Facebook qui m'a ajouté. Et elle arrive, elle commence à me parler. Puis moi, mon trip, c'est d'y poser tout le temps la même maudite question. C'est « Hi, do you like Banjo-Kazooie? » Et là, la personne qui vient sûrement de je ne sais pas trop où, est perdue, ne sait pas comment répondre à ça. Puis là, je l'amène en bateau rendu là. Puis, tu sais, je fais mon crackpot par rapport à ça parce que là, ça fait comme, OK, là, on est rendu dans mon terrain de jeu. Viens-t'en, on va déconner. La première, ça a vraiment mal viré parce qu'elle était rendue passive-agressive. Mais la deuxième, celle que j'ai en ce moment, genre, là, elle est rendue que là, elle me parle de Resident Evil. Fait que là, ils ont
fait un
game, là.
Ça, t'es tombé sur un gars en Inde ou je sais pas trop qui. Ça donne qu'il connaît un peu le gaming. Là.
Ouais, fait que là, je sais pas trop quoi faire. Là. Fait que là, j'ai callé de l'aide. Là. Je fais comme shit, j'ai jamais joué à Resident Evil. Venez m'aider, là.
Mm-hmm.
Je sais pas.
Tu veux juste demander, genre, comment est-ce qu'il trouve la ville de Raccoon City. Des choses dans le même aussi, là.
Prochaine fois, je prends ton conseil en note.
Si on revient un peu à Banjo-Kazooie, j'ai envie que tu me parles. Fait que là, avec ta mère, vous jouiez beaucoup. Parle-moi de comme comment est-ce que tu as vécu justement les jeux suivants? Est-ce que quand tu l'as vu dans Super Smash, tu es comme, oh my god, je peux pas croire qu'il est rendu dans Smash?
Oui.
Ou c'était comme, parle-moi de
ça. J'ai crié, moi, j'étais au travail quand j'ai écouté le E3 et j'ai crié et il y a du monde qui ont fait comme, qu'est-ce qui se passe avec Luc?
Oui. Il faut que tu leur expliques qu'il y a un jeu de bataille de Mario Bros.
Personne dit, qu'on là, après... au travail, c'était bien bizarre. Mais hey, quand il y a eu cette annonce-là, là, le monde qui m'écrivait en privé pour faire comme je pense que tu es content aujourd'hui, je pense que c'est ta journée. Je fais que ouais, je pense que ouais, c'est carrément ça. Puis tu sais, le monde pense que je suis un maniaque, c'est un peu vrai. Mais tu sais, j'ai fait un tournage j'ai fait un tournage récemment et il y avait un props que mon ami qui faisait la réalisation s'occupait. Et il y avait un props qui était le guide de Banjo-Kazooie. Il m'a dit, écoute, aujourd'hui, c'est un prof. Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui l'avait amené. Il m'a dit, après le tournage, il est tatoué.
Oh!
Ah! Moi, je capotais. Là, c'est quelque chose comme. Puis il est mint. Là. Il est vraiment beau dans sa pochette, encore avec tous les posters. Puis tout. Fait que moi, j'étais comme, my God, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me donner. Puis je l'ai rajouté directement à ma collection. Même qu'il me reste un seul jeu à collectionner. Puis c'est le fameux jeu de course que tu parlais tantôt. Hein.
Oui.
Sur Game Boy Advance. Ça. Tu me le dis hein, si je vais trop loin. Hein, parce que
non, vas-y.
C'est le côté geekitude qui embarque. Là. C'est que Banjo Pilot était supposé à la base être une suite à Diddy Kong Racing, que ça devait s'appeler Diddy Kong Pilot. Et vu que Microsoft. Microsoft, My Rare, avait perdu comme le OG de Diddy Kong, ben, ils ont décidé de prendre leur propre OG et c'est fini avec Banjo-Kazooie, Banjo-Pilot. C'est pas un jeu extraordinaire, mais juste l'avoir, c'est juste ça que je veux.
Ouais, mais j'imagine aussi que, tu sais, quand on était plus jeune, mettons, il y a comme pas plus... Tu sais, cette histoire-là de vente, moi, je me souviens, histoire de vente-là, m'avait vraiment troublé parce que j'avais peur de... Que, moi, chez nous, on avait vraiment juste des Nintendo en général. C'est ça que mes parents nous achetaient, tu sais. Même, plus vieux, je prenais mon argent pour une PlayStation. On dirait que la brand était tellement fort pour mes parents que ça allait être ça à la maison, tu sais. Okay. Puis, je savais que si... moi, je n'avais pas perdu DK, mettons, par exemple, tu sais. Puis, j'avais peur qu'on perde aussi Perfect Dark, Joanna Dark, puis tout ça, finalement, ça s'est arrivé, elle est allée de l'autre bord. Puis, ouais. Je me souviens être comme, oh, on ne les reverra plus jamais. Puis, tu sais, je ne sais pas si tu te souviens la première fois qu'on a vu, genre Sonic puis Mario ensemble, à un moment donné, t'étais comme tabarnan.
Ça, c'est le monde, hot, ça.
Le monde se battait quasiment à l'école, comme, tu avais un clan puis l'autre bord. Puis là, genre, ils m'ont dit, ça, c'est possible, la paix en Palestine puis en Israël, c'est possible, rendu là, tu sais. Puis, là, j'imagine que tu as eu le même feeling lorsque tu as vu Banjo dans Smash, j'imagine. Mm-hmm. C'est comme, oh my god, j'aurais jamais cru. Parce que tu sais aussi, au début Smash, c'était très, très les IP de Nintendo qui étaient juste dedans seulement aussi.
C'est principalement ça, c'est ça.
Oui. Mais, y a-t-il quelque chose que les gens, tu penses, sous-estiment par rapport à Banjo-Kazooie? Genre que le monde ne remarque pas absolument cette affaire-là.
Hey boy, une affaire que je trouve très important, c'est que c'est la complexité. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été essayées avec ce jeu-là qu'à la base, Rareware n'était même pas supposé faire. Je donne un exemple avec le Stop and Swap, qui est un concept que les concepteurs de Banjo-Kazooie voulaient faire, qui était de transférer de l'information d'une cartouche à une autre. Le Stop and Swap, ça consistait qu'il fallait que tu développes des choses dans Banjo-Kazooie, le premier jeu, et après ça, il fallait que tu gardes ta console ouverte, que tu t'enlèves ta cartouche et tu avais 10 secondes pour mettre Banjo-Tooie. Et les concepteurs de Rareware avaient remarqué que la console gardait en mémoire 10 secondes la sauvegarde de ta cassette pendant 10 secondes. Sauf que pendant la conception de Banjo-Tooie, je pense, non, de Banjo-Tooie ou Banjo-Kazooie, eh bien, ils se sont rendus compte que le hardware a été corrigé, ce qui fait en sorte que maintenant, la sauvegarde de la console était juste d'une seconde seulement. Donc, il aurait fallu que tu sois comme hyper rapide pour pouvoir faire le switch, qui était carrément presque impossible.
Mais vite de même, le transfert devait être gros parce que dans le temps, la 64 avait aussi des memory packs qui vont dans la manette. Fait que genre rendu là, tu peux comme dire que tu as joué genre 1.
Il y avait-tu déjà les memory packs dans le temps? Je pense pas.
Mais la manette, elle était faite pour ça, parce qu'il y avait un trou dedans.
Ah oui, t'as raison.
Fait que je sais pas, par contre, je sais pas si c'est sorti genre à la sortie de Banjo-Kazooie, les memory packs, mais vite de même, genre, je me souviens, il y avait comme... Comment?
Ça aurait été logique au bout, par exemple.
Oui, ça aurait fait du sens.
C'est plus logique. Mais c'est ça, dans le fond, Nintendo les a contactés pour leur dire « Hey, vous allez briser nos consoles si jamais vous allez de l'avant dans ce projet-là » parce qu'ils l'ont comme découvert un petit peu plus tard. Puis mm-hmm. c'est là qu'ils ont comme abandonné cette idée-là parce que oui, en effet, là, déjà qu'on scrappe nos pommes avec les jeux de Mario Party 1, il fallait en plus scraper nos consoles, là, ça ne marche pas. Là.
Ouais, même dans Mario Party Superstar, il y a des jeux de Mario Party 1 qui s'est tourné le stick, oui. Puis c'est écrit, genre, prenez pas votre pomme de la main. Puis je suis comme, ouais, moi j'ai vécu ça, fait que ça n'arrivera plus à ma vie là, de briser les manettes pour ça.
Ah non, je pense qu'il y a juste la nouvelle génération qui ne sait pas de quoi qu'on parle en ce moment. Là.
Mais, je pense que c'est rendu un phénomène assez grand. Oui. Hey, Luduc, dernier mot sur Banjo Kazooie avant qu'on se quitte. Il y a quelque chose qu'il faut absolument que tu dises à propos de cette franchise-là ou de ce jeu-là avant que celle-ci se termine.
Hey boy, j'ai tellement de choses à dire. Écoute, moi, je veux juste mentionner que si jamais la vie va dans la direction que j'aimerais qu'elle aille, là, dans le meilleur des deux mondes, mon rêve. Parce que on parlait tout à l'heure du fait que j'ai déjà fait des Vox Pop, des entrevues. Là. Ce serait un. J'aimerais avoir le rêve d'interviewer Grant Kirkhope, qui est la personne qui faisait la musique de Banjo-Kazooie. Mm-hmm. Il est toujours vivant, ce monsieur-là, et c'est lui qui a fait la musique de Banjo-Kazooie pour Super Smash Bros. Ultimate, qui a fait des remakes de ça. Il a été recontacté par Sakurai. Ce que je trouve vraiment cool, qu'il puisse comme amener sa propre version. Et récemment, sur Spotify, si jamais il y a des gens qui veulent le voir, il a fait un remix, il a revampé ses tunes, fait qu'on peut les réécouter directement sur Spotify. Fait que, si jamais ça vous tente de revivre d'autres beaux souvenirs, mais version updatée, ben c'est comme la place, surtout avec le OG Grant Kirkhope, c'est malade.
Cool. Hey Luduc, j'aimerais, s'il te plaît, que tu me dises, on peut te voir où sur Internet? Si on veut voir toutes tes vidéos et ton contenu que tu nous fais.
Ben écoute, sur YouTube, tu peux chercher Luduc, L-U-D-U-C. Et sinon, je suis sur Twitch, donc MR Luduc, Monsieur Luduc. Je suis aussi sur Instagram, j'ai un Patreon, c'est ça. J'ai aussi un OnlyFans. Et dans mon OnlyFans, c'est juste des photos de Banjo-Kazooie.
Ben écoute, t'es un fan de Banjo.
Il est gratuit, fait que c'est juste ça. Pour regarder des photos gratuites de Banjo-Kazooie. C'est juste ça.
Exactement. écoute, je veux dire, nous, on encourage les créateurs de contenu et il y a Banjo-Kazooie ici. Fait que vous pouvez, s'il vous plaît, aller vous abonner à tout ça. En temps normal, je remercierais Chuck Thompson des studios Berlingo, mais là, vous pouvez voir que c'est moi qui s'occupe de tout et c'est pour ça que c'est moins poli que d'habitude.
On va le remercier.
Ben oui, absolument. Il est tellement cool. Fait que merci beaucoup, Chuck, d'exister. Merci beaucoup à vous qui étiez là. Prenez le temps de vous abonner à la page Facebook de RDS Jeux Vidéo et à notre Instagram aussi. C'est bien important pour nous autres. Et aussi, ben moi aussi, j'existe. Fait que je m'appelle Pierre-Luc Racine. Tu peux écrire Pierre-Luc Racine dans Facebook ou à commercial Pierre-Luc dans Instagram. Puis pop, je vais popper. Peut-être bientôt sur TikTok, mais que j'ai un temps de lousse pour passer un compte là-dessus. Fait que, gang, une fois plus, merci Luduc. Merci à la maison. Merci à tout le monde. Le podcast après est disponible sur iHeartRadio et toutes les autres plateformes que vous voulez nous écouter. Et d'ici là, jouez plus.